Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Campus au 90.8 dans La Bouche, votre émission sonore, musicale, queer, féministe favorite. Tout de suite, pour introduire cette émission, je vais vous laisser avec la voix de l'artiste Radio Ito et son titre Home, qui donne déjà quelques petits indices sur la thématique de cette émission. Je suis en compagnie d'Émilie et il manque deux de nos collègues Bouche, mais vous retrouverez leur voix dans les prochaines émissions. Mais j'ai peut-être un peu menti, il y aura peut-être une petite surprise à la fin de la part de Lila. Aujourd'hui, on va ouvrir la porte de la maison, des maisons, réelles ou imaginaires, celles qu'on habite ou qui peuplent notre tête.
Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission La Bouche sur Campus Grenoble 90.8 en ce joli mois de mai où on fait tout ce qui nous plaît. Merci Candice pour cette douce introduction en compagnie de Radio Ito. Malgré l'absence donc de nos deux compères qui sont sur d'autres chantiers aujourd'hui, nous avons la chance d'être en très bonne compagnie puisque nous recevons deux artistes locales, Alice Raconte et Laurie Segond. Bonsoir mesdames.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue du coup dans les studios du ciel de Campus Grenoble 90.8 et merci de partager un peu de votre temps précieux avec nous et de venir échanger autour de nos différentes bouches. Également un grand big up à Alice que vous n'entendez pas mais qui est toujours présente avec nous en soutien technique. Merci beaucoup. Du coup, nous avions découvert ton travail, Alice, lors de ta précédente exposition, la précédente présentation de ton exposition à la bibliothèque ABI. Et déjà, l'exposition moi, m'avait particulièrement touchée. Et en plus, il se trouve que ton travail recoupait avec des thématiques qu'on souhaitait aborder dans l'émission La Bouche, notamment la question de la maison et de l'habiter, et la question du célibat féminin. Et du coup, on s'est dit que ça pourrait être hyper cool d'échanger avec toi au travers de ces thématiques. Et puis donc, toi, Laurie, dans le cadre de cette précédente présentation, t'avais pu jouer ta pièce de théâtre « Tante Louise » ou « La vie secrète d'une vieille fille ». Et après échange avec Alice, j'ai cru comprendre que vous aviez continué une collaboration toutes les deux. Donc voilà. Voilà pourquoi vous êtes autour du micro de La Bouche ce soir et on est trop contentes. Donc cette expo, petit moment pub, on peut la retrouver depuis le 30 avril et jusqu'au 2 juin, donc à la Maison des Habitants Abbaye à la Pirogue.
Alors l'exposition, elle n'est pas à la Pirogue, elle est vraiment dans la Maison des Habitants.
Ah ok.
Voilà.
J'avais une fausse info dans mon oreillette.
Et par contre, il y a bien un événement à la Pirogue. Voilà, c'est le spectacle de Laurie.
Je crois que vous allez nous en dire plus dans pas longtemps. Pour commencer, pour un peu mieux vous connaître, alors moi je suis crevée d'avoir fait cette introduction. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait vous laisser la parole et qu'en fait chacune présente l'autre, si ça vous va. Ouais. Alors je ne sais pas qui veut commencer.
Eh bien, je peux commencer. Allez.
Allez, vendu.
Ça fait pas si longtemps que ça qu'on se connaît avec Laurie. Mais Laurie est comédienne et autrice. Et moi, je l'ai découvert avec la pièce « Tante Louise » ou « La vie secrète d'une vieille fille ». C'était à Merci Bonsoir, si je dis pas de bêtises, en septembre de l'année dernière. Et voilà, j'avais repéré dans le programme un spectacle qui portait ce titre-là et qui parlait de vieille fille. Je m'étais dit qu'il fallait pas que je le manque. Et du coup, j'avais échangé avec ta collègue, je pense, à la suite du spectacle. Et voilà, suite à ça, on s'était rencontrés. Puis on avait eu envie de faire des trucs ensemble au sujet de nos projets. Et voilà.
Très bien. À toi, Laurie.
Ok, et ben Alice, elle est illustratrice et carnétiste, donc elle fait des dessins incroyables. Elle fait surtout, pour ce que j'en sais, parce que je connais pas tout son travail quand même, des cartes sensibles par exemple. Elle cartographie des lieux, elle cartographie des idées, des sensations. Elle a une approche comme ça sensible des choses dans la vie qu'elle sait rendre sur du papier, sur du très beau papier souvent. Et pour partager comme ça une façon de regarder le monde. Et donc on s'est rencontrés effectivement de la manière qu'elle a décrite. Et depuis l'automne en fait, on essaye de différentes manières de continuer à se rencontrer autour de nos deux travaux qui se font largement écho et puis d'inventer des choses nouvelles ensemble parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui nous intéressent. On a des centres d'intérêt communs, on va dire.
Oui.
Dans nos travaux.
Justement, oui, quel est le point de départ du travail de chacune et à quel moment ils se rencontrent, ils se croisent et comment vous arrivez à articuler vos deux pratiques
Alors, de mon côté, donc, c'est Tante Louise ou La vie secrète d'une vieille fille, c'est un spectacle, un seul en scène, que j'ai commencé à créer il y a 2 ans. Si je ne me trompe pas. Bon, après, dater précisément les débuts d'un processus, c'est toujours un peu complexe, parce qu'on pourrait dire que ça a commencé aussi il y a de très nombreuses années, en 2012, quand j'enregistrais mon grand-père autour de sa mémoire et que je suis allée enregistrer ma grand-tante et puis que ça n'a pas fonctionné et que je me suis retrouvée avec un enregistreur en panne et ma grand-tante qui ne voulait plus que je revienne l'enregistrer. Et qu'après, c'était trop tard. Et bon, voilà, il y a différentes manières de regarder la genèse d'un projet. Mais disons que quand j'ai commencé à créer vraiment ce projet, c'était il y a 2 ans. Parce que donc à la suite de ce premier épisode qui remonte quand même pas mal d'années, j'avais commencé à écrire un peu autour de cette base. Ma grand-tante, entre-temps, elle était décédée. Donc, il était vraiment plus temps d'avoir des réponses à mes questions. Et j'ai commencé à écrire sur cette absence de réponse, sur toutes les questions que je me posais. Et puis un jour, j'ai repris cette matière et je me suis dit, tiens, mais ça pourrait peut-être être le début d'un spectacle, de quelque chose à faire. Et j'ai rencontré Eva Gulin, qui est co-autrice du spectacle avec moi et qui est metteuse en scène du spectacle, donc dans un stage avec elle. Et puis on a commencé à travailler sur cette base-là, et puis ça a super bien marché entre nous. Puis il y a quelque chose qui est sorti de là, où on s'est dit, tiens, mais là, il y a un début de spectacle, on pourrait continuer. Et puis on a continué, on a travaillé ensemble pendant un an. Et en juin 2024, le spectacle a commencé à exister sous la forme qu'il a maintenant. Voilà. Et la deuxième partie de la question, c'était...
Quelle est la genèse de votre travail et à quel moment ça se rencontre et comment vous articulez vos différentes pratiques puisque vous êtes quand même sur des médiums, des pratiques différentes et...
Peut-être, après je te laisse te présenter de ton côté, mais du coup, moi, Alice, je la rencontre au moment où le spectacle, il commence tout juste à exister et où c'est les premières dates publiques et du coup, je suis très contente de ça. Et en même temps, c'est les premières rencontres avec le public, les premiers retours. Et puis voilà, puis à la fin d'un spectacle, y a Eva, donc, qui est la metteuse en scène du spectacle, qui était là, qui vient me dire, j'ai le contact de telle personne qui m'a dit qu'elle voudrait te rencontrer. Et puis c'était Alice, puis voilà, on s'est rencontrés comme ça.
Et du coup, pour parler de l'exposition... qui s'appelle Histoire de ma maison. De la même façon que Laurie, en fait, je pense que c'est un projet qui remonte à assez loin. En fait, ça fait un moment que j'avais envie de raconter l'histoire d'un lieu précis. Parce que moi, je m'intéresse beaucoup aux histoires de lieux plutôt urbains, donc aux histoires de quartiers, aux histoires de rues. J'avais déjà fait ça à plusieurs endroits à Grenoble et que je raconte sous la forme de carnet de voyage, reportage dessiné, mais à des échelles, du coup, qui sont quand même assez grande finalement, et j'avais en tête de m'intéresser à la vie d'un immeuble, de me dire ok, en fait on passe des années à dormir à 50 cm de quelqu'un qu'on connaît absolument pas, c'est quand même super bizarre, et j'avais envie de cartographier un peu les habitants, habitantes d'un immeuble à un instant T. Ça s'est pas produit, puisque j'ai à un moment commencé à habiter dans une maison, donc ça c'était il y a 3 ans et demi. Et cette maison, elle m'a assez rapidement intriguée parce que je pense que c'était déjà la première fois que je réhabitais dans une maison depuis que j'étais partie de chez mes parents au moment de mes études, et qu'il y avait quelque chose d'un peu familial, domestique, rassurant, et en même temps on n'était pas une famille à habiter ensemble, on était des amis, mais... Voilà, cette forme de la maison, là, elle m'intriguait. Et puis aussi, c'était une vieille maison que je ne savais pas trop dater. On n'avait pas trop d'idées de la date de sa construction. Mais de la même façon pour l'immeuble, je me suis dit, ok, je vais un peu creuser, juste par curiosité personnelle, l'histoire de cette maison-là. Et mon intention de départ, c'était de faire la biographie de cette maison. Vraiment d'avoir une frise chronologique qui retrace la succession de toutes les personnes qui y avaient habité. Donc c'était quand même potentiellement un peu long, mais voilà, j'avais simplement en tête d'avoir une accumulation de prénoms, on va dire. Et la première étape, ça a été d'aller aux archives municipales pour essayer de trouver un point de départ, parce que je me suis dit que j'avais envie de partir du début plutôt que de la fin, plutôt que d'aujourd'hui. Et à ce moment-là, le projet a un peu basculé, parce que je me suis rendu compte que la maison avait été édifiée par 3 femmes. Je suis tombée sur le permis de construire et c'était le nom de...
Ou tu nous spoiles l'expo un peu. Hein.
Disons que c'est... Ouais, je
spoil un petit peu,
mais voilà. En fait, c'est des demoiselles qui ont édifié la maison. Et finalement, c'est une exposition qui parle pas tant de la maison que de ces femmes. Et voilà, très rapidement, en fait, je me suis dit... Je crois que je vais laisser tomber la suite juste pour me concentrer sur ces femmes-là, essayer d'en savoir plus sur elles. Et voilà, ça a été ça le point de départ, et c'était il y a un peu plus de 2 ans maintenant.
Et c'est très joliment retracé d'ailleurs, tous ces parcours. Et par rapport du coup à votre collaboration, je crois que vous avez des ateliers que vous allez animer ensemble. Comment vous avez un peu travaillé sur vos pratiques diverses et variées et vos talents?
On en sort justement là d'une session de travail. Et c'est vrai que oui, j'ai pas parlé de la partie articulation entre ces créations-là. Moi, ce que je trouve super intéressant dans le travail de Laurie, c'est que à la fois, il y a vraiment une approche de récit de vie, de parcours de vie, qui s'attache à une personne qui est réelle, quoi, qui a bien existé. Et en même temps, ben, tu prends aussi le parti à un moment de te dire, ok, je peux basculer dans la fiction. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, que moi, je me suis pas autorisée à faire dans mon travail. Et ça, je trouve ça... Enfin, moi, du coup, j'y vois une forme de complémentarité un peu dans nos travaux. Et sans même parler de la forme aussi, parce que, ben, voilà, de ton côté, c'est du spectacle vivant et puis des arts visuels, quoi, pour moi. En tout cas, voilà un peu quoi, sur nos créations, comment ça s'articule et comment ça se complète, je trouve. Et tu veux peut-être parler des ateliers.
Eh ben, les ateliers, ouais, ça arrive là. Là, ce mois de mai-juin, c'est des ateliers qu'on propose à la maison des habitantes du quartier Abbaye de Grenoble. Et en fait, à un moment, entre nos deux travaux, en fait, moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux aspects qui se font vraiment écho. C'est le côté de s'intéresser à des personnes qui étaient donc des personnes qu'on appelait vieilles filles et donc des femmes célibataires, on va dire, et le côté enquête. D'aller chercher, en fait, à partir de ce qu'il y a, de ce qui reste, de l'absence de réponse aussi, d'essayer de construire un portrait en creux à des endroits, puisqu'il y a des manques, puisqu'il y a des traces qui ont disparu, puisqu'il y a des questions qui n'ont jamais été posées, des réponses qui ne sont pas venues. Donc, voilà, j'ai l'impression que nos deux travaux, ils se rejoignent vraiment sur ces deux aspects-là. Et là, pour ces ateliers, on a décidé de développer plus le côté enquête, donc de s'intéresser à des lieux du quartier Abbaye-Bajatière et de proposer à un groupe de personnes qui souhaiteraient participer à ces ateliers, d'aller faire une enquête. Une enquête, alors on les a appelées des enquêtes historiques, sensorielles et imaginaires et fictives sur des lieux du quartier. Et donc l'idée, c'est d'aller s'intéresser à... que chaque groupe s'intéresse à un lieu du quartier et d'aller l'explorer de différentes manières avec ce qu'on peut trouver sur ce lieu, que ce soit de manière très concrète en allant aux archives municipales, par exemple.
Super, ça donne envie.
Ouais, voilà. ou d'aller sur place, d'observer ce qu'on peut y voir, y ressentir, y entendre. Voilà. Et puis, avec l'idée qu'il y ait une petite restitution, le 28 juin, nos ateliers, ils vont être du 22 mai au, je sais plus, 16 juin, quelque chose comme ça. Ouais, je crois que c'est ça. Et la semaine suivante, c'est le 28 juin, c'est la fête du quartier Abbaye. Et donc l'idée, c'est de faire une restitution de cet atelier avec les participantes et de présenter un peu nos enquêtes, le résultat de nos enquêtes.
Ok. Trop cool. Bah, de toute manière, on remettra toutes les dates dans les descriptions. Ouais, tout à fait. On s'est modernisé et peut-être sur Instagram, puisqu'on a un Instagram depuis peu. Et on se demandait aussi, donc c'est la troisième fois que tu présentes cette exposition, est-ce qu'il y a eu une évolution entre la première et la dernière ?
Assez peu, en fait. Alors, il y a quelque chose, il y a des éléments que j'ai un petit peu ajoutés, puisque il y a pas mal de personnes qui participent finalement à cette enquête. Il y a la tante d'une amie, par exemple, qui m'a envoyé de vieux exemplaires d'un magazine qui s'appelle Illustration, qui est un magazine de mode féminin du début 20e. Et du coup, je suis venue ajouter des éléments dans l'exposition parce que je trouvais que ça venait, c'était du matériau d'époque qui venait illustrer peut-être ce à quoi ces femmes avaient ressemblé. Et il y a des choses que j'ai aussi retirées. Et je pense notamment à une photo de la maison qui se trouvait au début et que j'ai enlevée.
Merci pour ces précisions. Alors, vous avez demandé de nous ramener un peu des sons que vous aimiez bien. On a dû un petit peu sélectionner parce que vous en aviez proposé plusieurs et on n'a qu'une heure d'émission. Du coup, on va commencer par toi, Alice. Je te laisse présenter ton son.
Ouais, merci. Alors, c'est un morceau qui s'appelle « La montagne » du groupe La Daniva, que j'ai entendu pour la première fois en concert. Je trouve que c'est toujours un super moyen de rencontrer un morceau que de l'entendre en live. Et voilà, il m'avait vraiment bouleversée au niveau de la musique quand je l'ai entendu pour la première fois. Et puis après, je me suis plus arrêtée sur les paroles et il m'a encore plus touchée.
Au-delà de trouver une maison. Viens, viens à notre table, sous les figuiers au bout du jardin.
Moi, j'avais une question au sujet de la maison ou des maisons, puisque c'est une figure qui est importante, j'ai l'impression, dans votre travail à toutes les deux. Et aussi ce rapport entre le passage d'un lieu intime au lieu commun et de comment tout ça dialogue. Et j'aurais bien aimé savoir, c'était quoi, déjà, pourquoi c'est important pour vous, cette figure-là, et quelle place elle a dans votre travail, et aussi quelles sont les figures des maisons qui vous habitent, qu'elles soient imaginaires ou réelles.
Bah du coup, moi, je pense qu'il y a vraiment ce côté de l'enfance, quelque chose un peu de cet ordre-là et de rassurant dans une maison. Et je suis très habitée par des maisons imaginaires, parce qu'en fait, ça ne correspond pas du tout au type d'habitat, a priori, où j'aimerais habiter pour l'instant. Mais j'ai le rêve d'une petite maison... bretonne, pour être précise, qui serait petite et toute blanche, avec un banc devant pour boire du café, et voilà, qui donnerait sur la mer. Mais l'idée de maisonnette, et aussi une maison qui aurait un nom, ça c'est quelque chose que j'aime bien, les maisons qui ont des noms.
C'est beau. Et toi, Laurie ?
Ouais, ben les maisons... Je pense qu'elles ont quand même beaucoup été importantes pour moi comme des repères dans la vie. Et en fait, par exemple, la maison de mes grands-parents, ils étaient paysans et ils avaient une ferme. Et donc moi, je les ai toujours connus dans cette ferme. Mon grand-père, il est né dans cette ferme et il est mort dans cette ferme. Et donc je l'ai connu toujours là-bas. Et donc c'était un repère. Et j'avais pas trop d'autres lieux comme ça. Parce que sinon, moi, j'ai pas mal déménagé dans ma vie, dans ma famille. Et du coup, je pense que ça a créé... Puis le fait que c'est une famille paysanne qui était dans ce village depuis déjà longtemps. Il y a un côté racine, origine, une espèce de truc comme ça, que je relie un peu à cette maison, à cette ferme. Je trouve qu'après, les maisons, c'est aussi... je le vois vachement comme un privilège, l'accès à une maison. Alors après, si on peut dire maison comme lieu de vie, mais quand je parle d'une maison, comme une maison individuelle ou une ferme ou autre chose qu'un immeuble. Et du coup, je le place beaucoup à la campagne quand je pense à maison. Et je vois bien que moi j'ai pas accès à ça, et pas directement, et surtout qu'il y a beaucoup de gens qui n'y ont pas accès du tout, que moi j'y ai eu un peu accès dans ma vie à des moments, Donc voilà, ça m'évoque ça, moi, pour moi, les maisons.
Trop chouette. Et il y a une autre thématique dont on a un peu parlé qui ressort dans votre travail, c'est celle du célibat féminin. Et j'aurais aimé savoir en quoi c'était important pour vous, parce que c'est des questions, j'ai l'impression, donc, qu'on commence un peu plus à parler aujourd'hui, qui s'inscrivent aussi dans un certain mouvement, un peu une tendance actuelle des grandes questions féministes. Et en quoi, pour vous, ça vous paraissait être important de parler de ça dans votre travail aussi ?
Ben, moi, je me suis un peu retrouvée à en parler sans avoir prévu d'en parler, puisque du coup, c'est vraiment la découverte de la vie de ces femmes voilà, qui a généré un peu ce travail de création, on va dire, mais qui a quand même... Si ça a arrêté mon attention, c'est parce que ça a résonné avec... alors, pas forcément la situation de toutes les personnes avec qui j'habitais à ce moment-là, mais il se trouve en tout cas qu'on était 6 femmes à habiter la maison... Quand j'ai commencé cette enquête. Et voilà, j'ai pas pu m'empêcher d'y voir une forme d'écho. Et j'avais lu, je sais pas trop à quel moment je l'ai lu, mais c'est le moment où j'ai lu l'essai Vieille fille de la journaliste Marie Coq, qui venait utiliser cette expression-là, qui est une expression que moi j'avais jamais entendue que de façon hyper péjorative et assez terrible, en fait. Et du coup... voilà, le fait de me dire « Ah, mais il y a un sujet, un peu, je sais pas, d'une certaine façon. » C'était super, en tout cas, de pouvoir lire ce texte à ce moment-là. Sans en dire trop, mais le travail d'enquête que j'ai essayé de mener, Laurie en a un petit peu parlé, mettait beaucoup en avant les vides et les blancs et les absences à un moment où l'histoire ne gardait pas la trace de façon de façon systémique, enfin la trace de ces femmes-là, elle n'était pas gardée, quoi. Et du coup, il y a aussi quelque chose d'un peu et même de très indigné qui m'a habité pendant ce travail et qui m'a animée aussi dans la poursuite de ce travail-là.
Trop chouette. Et toi, du coup, Laurie ?
Ouais. Alors pour moi, tout part de ce lien à ma grand-tante qui elle-même donc était vieille fille et je crois que pour moi, il y a vachement la question des modèles. De quel modèle, en fait, ça a pu être pour moi de me dire « Ah, mais en fait, c'est possible d'être une adulte sans être mariée, sans être mère, sans être... sans avoir d'enfant. »
On a le droit.
Voilà, on a le droit, c'est possible, en fait, ça existe. Et moi, ça m'a marqué dans mon parcours, sachant que dans ma famille, dans mes familles... le modèle principal, vraiment très très largement dominant, c'était de se marier en couple hétérosexuel, d'avoir des enfants. Et tous mes cousins, cousines qui sont nombreux, mes oncles et tantes, enfin voilà, tout était prenait ce chemin-là, quoi. Bon, puis c'est le modèle de la société qui est dominant partout, quoi. Mais voilà, familialement, je sais que cette grand-tante, c'était autre chose, c'était d'autres possibilités, c'était une porte ouverte, en fait, sur d'autres possibles. Et je crois que j'ai eu envie de ça, de donner de la place à ça, de lui rendre hommage aussi, et puis de faire exister, en fait, ces vies-là, ces modèles-là.
Et c'est très, très bien fait dans, dans ta pièce de théâtre, et c'est exactement ce que tu décris. Je trouve qu'on le ressent beaucoup en venant voir le spectacle, que je recommande.
Merci en tout cas, oui, de mettre en avant ces modèles. C'est important aussi d'avoir d'autres représentations. On va faire une petite pause musicale avec une recommandation de Laurie. Est-ce que tu as envie de nous parler du morceau que tu as choisi ?
Ouais, alors c'est un morceau de Viscéralement Déviant, qui est un groupe de hip-hop local, de Rhône-Alpes.
3-8.
Ouais, pas que, mais... Mais aussi.
On a
8, 4, 2, tout ça.
6, 9.
C'est un morceau qui s'appelle Nos grands-mères et qui dit bien justement pour la communauté transpédéguine, pour la communauté queer, c'est qui nos grands-mères ça peut être ces personnes qui n'ont pas eu d'enfants et ça peut être ces personnes qui ont vécu dans d'autres. D'autres réalités de vie que le modèle dominant et qui ont pu être des modèles pour nous. Voilà.
Gros bisous les grands-mères.
Malgré les efforts de cette société pour nous effacer. Notre histoire s'est forgée dans les goulags, la galère ou à coups de barre de fer. On s'est jamais laissé faire. Aujourd'hui comme hier, on reste fainéant. Queen rouge et front homosexuel d'action révolutionnaire. C'est eux nos grands-mères. Ma famille n'est pas nucléaire. Elles portent paillettes, talons hauts et revolvers.
Nous sommes une sorte de contradiction interne à la société. Nous sommes une sorte de contradiction interne à la société.
La normalité a lesté nos passés de morts injustifiées, de gens assassinés dont le seul crime était d'exister.
Je pense aux PD déportés,
je pense à se jeter dans un fleuve,
je pense à celles qui subissent les électrochocs en HP,
je pense aux trans PD Gwyn violées,
je pense aux trans psychiatrisées,
je pense aux sorcières brûlées.
Gwyn rouge et pro homosexuel d'action révolutionnaire. C'est eux nos grands-mères. Ma famille n'est pas nucléaire. Elle porte paillettes, talons hauts et revolvers.
Je pense à ceux qu'on tabasse jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus respirer.
Je pense à ceux qu'on expulse et dont on apprend la mort deux semaines après.
Je pense à celles en prison.
Je pense à celles qui ont pété un plomb.
Je pense à tous ces frics. Et non, je ne suis pas triste. Parce que la force qu'il a fallu pour résister à tout ça, c'est un des trucs qui me pousse aujourd'hui au combat. Ma force, ma puissance, je la puise aussi là. Et quand je lutte, je les sens derrière moi.
Nous sommes une sorte de contradiction interne à la société. Nous sommes une sorte de contradiction interne à la société.
Queen rouge et front homosexuel d'action révolutionnaire. C'est eux nos grands-mères. Ma famille n'est pas nucléaire. Elle porte paillettes, talons hauts et revolver.
Et non, mon modèle à moi, c'est pas Madonna. J'tape pas toutes mes thunes au marais. Tonewall, c'est quoi? C'était des émeutes, pas une série télé. En 69, contre les flics, les drag queens vénèrent. T'as vu ce qu'elles ont réussi à faire? Elles les ont mis à l'amende, sévère.
J'préfère exploser la binarité plutôt que d'être intégré. Parce que j'peux pas oublier que quand t'es trans, t'as deux fois plus de risque de te faire buter.
Queen rouge et front homosexuel d'action révolutionnaire. C'est eux nos grands-mères. Ma famille n'est pas nucléaire. Elle porte paillettes, talons hauts et revolver.
Nous sommes une sorte de contradiction interne à la société. Nous sommes une sorte de contradiction interne à la société.
Queen rouge et front homosexuel d'action révolutionnaire. C'est eux nos grands-mères. Ma famille n'est pas nucléaire. Elle porte paillettes, talons hauts et revolver.
Deux hommes et deux femmes, au contraire, ça peut être l'égalité. À condition, bien sûr, qu'ils ne se mettent pas à singer le couple hétéro. Le couple hétéroflic, dans notre vocabulaire.
Stylé, les grands-mères. Vous êtes bien sur Campus Grenoble 90.8, dans l'émission La Bouche. Et justement, parlons peu, parlons bouche, avec Alice Raconte et Laurie Segond, nos invités du jour. Alice, alors toi, ton pseudo, il se rapporte directement à l'oralité, puisque pour le public, on t'appelle Alice Raconte. Est-ce que tu peux nous dire d'où vient ce pseudo et quel est un petit peu ton rapport à ça, à la bouche, au son ?
En fait, pour moi, c'est pas si évident que ça, le lien à l'oralité, pour raconter, parce que je suis vraiment quelqu'un de plutôt de l'écrit et du papier, de la lecture. Et pour moi, dans raconter, c'est raconter une histoire, mais pas nécessairement en parlant, on va dire. Par contre, j'aime beaucoup écouter. J'adore écouter les histoires qu'on me raconte. Enfin, dans mon travail, que ce soit pour faire des cartes, comme disait Laurie, ou des reportages dessinés, j'adore poser des questions et voilà, qu'on me raconte des histoires. Dans la façon, par contre, que j'ai de les partager, les histoires, je les raconte plutôt sur le papier.
Mais aujourd'hui, on a la chance de t'entendre et c'est bienvenu. Et toi, pour le coup, Laurie, forcément, en tant que comédienne, la bouche est ton instrument de travail. Et puis, dans ta pièce de théâtre, tu joues de multiples personnages, du coup, j'imagine, un travail sur la voix, sur quel est ton rapport à ça et comment tu arrives à bosser là-dessus.
C'est sûr que la voix, j'utilise beaucoup la voix, même si on peut aussi faire du sans-parole quand on Et d'ailleurs, j'aime beaucoup le travail du sans-parole. Mais dans le sans-parole, il y a aussi souvent les bruitages. Donc, on en revient à la voix. c'est quelque chose que je bosse depuis longtemps, de différentes manières. Je suis pas forcément, par exemple, très bonne chanteuse, mais j'aime beaucoup. Je suis un peu bruitiste. J'aime bien faire les bruits. J'aime bien faire du mime et du coup de faire tous les bruitages associés. Et après, il y a plein de manières de le travailler. Ça fait partie un peu des gymnastiques, pas quotidiennes, hein, parce que c'est pas comme ça que ça se passe pour moi. C'est pas tous les jours que j'ai l'occasion de répéter ou de travailler ce genre de choses. Mais il faudrait, dans l'idée. Le faire tous les jours.
Sur les bruitages, t'es plutôt autodidacte ou c'est quelque chose qui t'a été transmis ou...
J'ai appris peu à peu, je pense. C'est vrai qu'à un moment, je me suis rendu compte que c'était quelque chose que je faisais facilement et que j'aimais bien faire. J'ai pas fait une formation spécifique.
Un master bruitage.
Non, j'ai pas fait ça.
Sur le lavage de vitres.
mais par contre, oui, c'est sûr qu'après, j'adore jouer avec la voix, passer d'une voix à l'autre. Tu veux parler comme ça? Vous parlez comme ça? Vous parlez d'un truc de... Ou alors parler comme ça, parce que c'est aussi assez facile. Ou faire des petits bruitages. Oui, oui. Ou alors le bruit de la vitre qu'on lave.
Waouh, magnifique.
Émilie est ravie.
Ah ouais,
wow.
C'est le best.
Bon, qui marche mieux avec le geste associé. Donc à la radio, c'est pas très radiophonique.
Non, je pense que ça, nos auditeurs arrivent très bien à imager les choses grâce à ce bruitage parfait. Ok, merci pour toutes ces précisions. On en sait du coup désormais encore un peu plus sur la bouche grâce à vous. Et nous voilà nourris. Et sans transition, du coup, puisque j'en ai pas, je vais redonner la parole à Candice qui va nous parler d'une artiste qu'on adore à la bouche, qui s'appelle Sybille Bayer. Forget came in my house yesterday, my house that's on decay. Where roof and tapestries rot and where the fireplace isn't getting hot and everything's forgotten.
Il y a cette photo sépia qui m'a hantée. Forget came in my house yesterday. La photo sépia de la cover de l'album Color Green de Sybille Bayer. Bras croisés, yeux fermés, devant un champ labouré, elle m'a hantée. Elle me hante toujours. Je ne sais pas trop pourquoi, ce disque, c'est un peu comme un fantôme. Il me hante. L'anthologie, c'est la trace. Quelle trace on laisse, c'est toujours la question. C'est peut-être pour ça qu'il m'a hanté, ce disque. Forget came in my house yesterday. Parce qu'on a parlé de maison, mais aussi de choses intimes qui s'échappent pour atterrir dans l'espace public, j'avais envie de vous raconter l'histoire de Sybille Bayer et de cet album. Au début des années 2000, le fils de Sybille découvre le vieux magnétophone à bande de sa mère dans le grenier. Dessus, cette suite de ballades folk mélancoliques, empreinte de nostalgie enregistrée dans les années 70. Un son brumeux qui a le goût du thé chaud et la mélancolie des doigts glacés. Comme si l'on ouvrait le journal d'une inconnue. Il y a quelque chose de profondément intime dans ces musiques. Seulement une voix, une guitare, et les craquements du passage du temps sur la bande. Après avoir retrouvé les chansons, son fils décide de les compiler sur un CD, comme un cadeau pour sa mère. Puis le CD va passer de main en main et par hasard de circonstance atterrir entre celles du label Orange Twin Records. En déterrant les souvenirs perdus dans le grenier, Sybille passe de sa vie dans l'ombre de mère de famille à la lumière. J'ai lu quelque part que Sybille avait écrit une grande partie de ses chansons en rentrant d'un road trip en France avec son amie Claudine, dans une période un peu brumeuse de sa vie où elle avait besoin de partir voyager. Amie, avec de gros guillemets peut-être, ce qui serait pas si étonnant vu le nombre d'amis avec de gros guillemets qui peuplent les histoires du passé. Je me rêve à imaginer une histoire à la Thelma et Louise. C'est ça qui est beau avec les chansons, c'est que ce sont juste des portails vers l'imaginaire. Mais je me perds là. Je me perds comme la voix de Sybille entre les collines. Cette voix qui chantait auparavant seulement entre les murs de sa maison et qui désormais hante mes oreilles. I lost something in the hills. I lost something in the hills. L'histoire de Sibylle, c'est un peu l'histoire de toutes ces voix destinées à rester cachées derrière les murs épais des maisons. La voix de ma mère qui chante dans la cuisine et qui dit qu'elle ne sait pas chanter. Celle de nos mères, de nos grands-mères, de nos tantes. Toutes ces voix. Celles qu'on a laissées quelque part dans la poussière du grenier. Toutes ces voix qui hantent les maisons. Des maisons qui enferment et protègent à la fois. Est-ce que ces voix peuvent sortir? Est-ce que ces voix veulent sortir? Je ne sais pas. Toujours est-il que le vent finit toujours par s'engouffrer dans les maisons, et dans un courant d'air, les choses par se perdre dans les collines.
Every time I shed tears in the last past years, when I pass through the hills, oh, what images return. Oh, I yearn for the roots of the woods, that origin of all my strong and strange moods. I lost something in the hills. Something in the hills. I grew up in declivities. Others grow up in cities, where first love and soul takes rise. There were times in my life when I felt mad and deprived, and only the slopes gave me hope. When I pass through the leg-high grass, I shall die. Under the jessamine, I shall die. In the elder tree, I need not try to prepare for a new coming day. Where is it the deepness I feel? You will say I'm not Robin the Hood, but how could I hide from top to foot that I lost something in the hills? I lost something in the hills. Oh, I lost something.
Bientôt déjà à la fin de l'émission et il est l'heure de notre désormais célèbre chronique, le bouche à oreille. On va vous parler des trucs cool qu'on a vus, entendus et qu'on aimerait bien partager avec vous. Laurie, je te laisse commencer.
Alors moi, il y a une semaine en fait, une semaine, pardon. Bon bref, il n'y a pas longtemps, j'ai vu des films super intéressants, des documentaires au centre LGBTI de Grenoble. Il y avait le film The Archivettes, alors si on le prononce avec l'accent en français, ça fait The Archivettes, de Megan Rossman. C'est un film de 2013 et c'est un film sur le Lesbian Hair Story Archives, donc le centre d'archives lesbiennes de Grenoble, qui a été de New York.
C'est pareil,
Un centre d'archives lesbiennes à Grenoble.
C'est notre truc à nous.
Et donc, qui a été créé en 1984. Et donc, ça retrace l'histoire de ce centre qui est... C'est hyper, hyper beau, hyper touchant, hyper fort. Voilà, c'est, ça fait plaisir. Voilà, je vous le recommande. Et d'ailleurs, il y a une commission archives qui s'est créée au centre LGBTI de Grenoble dans l'idée de créer des archives communautaires.
Ah, voilà le lien.
Voilà le lien. Voilà. Et un deuxième film qui s'appelle, enfin sur les universités d'été homosexuelles à Marseille de 1979 à 2010. Donc c'est un documentaire sur les UEH, ça veut dire Université d'été homosexuelle. C'est un film collectif d'archives du centre de Marseille de mémoire, mémoire des sexualités, qui a été créé en 2024, réalisé en 2024, le film.
Ok.
Voilà, c'est deux films qui m'ont beaucoup touchée, que j'ai trouvé très beaux, très bien réalisés et surtout, enfin voilà, qui donnent à voir cette dimension d'archives, justement, de vie qui très souvent tombe dans l'oubli pour plein de raisons. Hein. Et là, ben voilà, il y a plein, c'est des lieux de conservation de traces de vie de gens, de traces de lutte aussi. Il y a des livres, des films, des affiches, des voilà, plein de choses qui sont conservées et c'est très très beau et très émouvant.
Merci beaucoup pour ce partage. Alice, c'est ton tour.
Oui, alors moi, je voudrais vous recommander un podcast qui s'appelle « À la recherche de la fille courageuse ». Alors, c'est plutôt une création sonore, je pense, d'Agathe Marin et de Jo Leport, qu'on peut écouter sur le site de Radio Balise. Et ça raconte l'enquête faite du coup par Agathe et Jo sur la figure de Marie-Jeanne Kerzao, qui était une femme pêcheuse de l'île de Groix, qui était l'une des seules à l'époque. Et Agathe s'interroge dans cette création sonore sur l'importance des modèles, on en parlait tout à l'heure. Et il y avait juste une question qu'elle pose que j'avais envie de lire. Elle demande « Est-ce que l'histoire de la fille courageuse a poussé des petites filles de Groix à embarquer ?» à ne pas se marier, à vivre selon leurs désirs. Et c'est magnifique, ça dure une heure, vraiment je vous recommande d'aller écouter.
C'est vrai, c'est magnifique.
Ouais, je suis allée l'écouter en avant, comme tu nous avais transmis tes petits recos avant, et franchement foncez écouter, ça vaut le coup.
Trop bien. Et je crois qu'on va entendre la voix d'Alice ce soir pour une petite reco.
Mais tout à fait. Toutes vos propositions et ceux dont vous parlez, ça m'a fait penser, alors on n'est pas sur le célibat, mais on est sur l'enquête autour des figures féminines, à un podcast réalisé par Claire Latsag qui s'appelle « Germaine ou la retenue », où elle va interroger sa famille sur la figure de sa grand-mère qui est une figure en creux. Et en recherchant sur sa grand-mère, eh bien, elle en vient à parler de l'avortement et notamment de l'avortement clandestin. Parce que Germaine est morte suite à un avortement clandestin. C'est très beau et je vous conseille l'écoute de ce podcast et de tout le travail de cette chercheuse et de cette créatrice, Claire Latsag, que vous pouvez trouver sur Ocha. Voilà.
Merci Alice d'avoir ouvert ton micro pour nous. On a écouté des musiques un petit peu calmes jusqu'ici. Donc moi, j'ai quelques recos, quelques concerts dont je voulais faire des retours. Il y a eu donc Big Brave le mois dernier qui était en concert au Ciel. Big Brave, c'est un groupe canadien mix de heavy metal expérimental un peu planant avec des Larsen de très longs morceaux. Avec en personnage principal une chanteuse-guitariste et une batteuse aussi, et un deuxième guitariste qui fait pas mal de Larsen. Là, au Ciel, il y avait également un bassiste. Et c'était du gros et beau son, peut-être un petit peu trop fort à des moments. D'ailleurs, je voulais juste faire une petite remarque. Messieurs, quand vous n'êtes pas au centre du groupe, dans un groupe, pas besoin de montrer trop fort le volume sonore pour qu'on vous oublie pas. Merci. Et donc, petit extrait, « Muted Shifting of Space ». We'll be right back. Un petit retour également sur la fête du travail qui s'est terminée en beauté au sein de cette année avec 4 groupes qui étaient invités et 2 petits coups de cœur de mon côté. Je voulais vous parler d'Aqua Tofana, donc c'est un groupe de 3 meufs qui venaient de Paris, des meufs qui font du punk, qui sont bien remontées, qui sont assez attachées à ce qu'on comprenne bien leurs paroles sur scène. Et quand on se penche un peu sur les textes engagés, on comprend pourquoi. Pour la petite anecdote, Aqua Tofana, c'est le nom d'un poison qui était surtout utilisé jadis par des femmes adultères pour se débarrasser de leur mari gênant ou prise au piège par des mariages forcés. On se met dans l'ambiance avec un petit extrait qui s'appelle « Va mourir ». Enfin, un petit extrait du groupe Nape Necked, un groupe anglais de 3 techniciennes de la basse, batterie, guitare, agrémenté d'un jeu de chant partagé à 3 voix, hyper technique, hyper impressionnant. C'était vraiment du gros son cool, carré et de grande qualité. On écoute Beaters. Et c'est pas parce que le mois de mai va bientôt se terminer qu'on arrête de faire tout ce qui nous plaît. C'est le moment de vous mettre l'eau à la bouche avec des événements qui vont arriver. Évidemment, on commence avec nos invités, Alice Laurie.
Oui, bah moi j'avais envie de réannoncer les dates et les infos sur les ateliers qu'on va animer avec Laurie à la Maison des Habitants Abbaye. Les 3 prochaines dates, ce sera le 5 juin, le 12 juin et le 19 juin. C'est des ateliers qui ont lieu le jeudi matin entre 9h30 et midi. Donc l'idée, pour rappel, c'est de travailler un peu sur les histoires de lieux du quartier. C'est des ateliers qui sont ouverts à toutes et tous, sur inscription auprès de la Maison des Habitants. C'est gratuit, mais du coup, voilà, prenez contact avec la Maison des Habitants avant de vous inscrire, enfin, avant de participer.
Et on peut rappeler que donc ce cycle d'ateliers se terminera avec une restitution le 28 juin, donc le samedi 28 juin, qui est la date de la fête du quartier. Donc il y aura toute une programmation et on ne sait pas encore exactement où on va se situer dans cette programmation, mais à un moment de la journée, il y aura une restitution faite par les participants, les participantes à l'atelier, aux ateliers. Et voilà, donc vous pouvez venir soit participer aux ateliers, soit venir découvrir ce qu'on aura produit, fait pendant ces ateliers.
Ok, je vois que Candice est déjà en train de noter tout ça dans son agenda électronique. Donc demain, samedi 24 mai, c'est la Marche des Fiertés de Grenoble. Donc comme on aime bien la rando à Grenoble et qu'on est super fiers, c'est rendez-vous donc à 13h au Jardin de Ville. Et comme on aime bien la bringue aussi, ce sera à partir de 23h30 pour l'After Pride à la Belle Électrique avec des DJ et performances drag.
Et le lendemain, si vous voulez redescendre et chiller un max, il y a les petits événements de musique ambiante au ciel le dimanche 25 après-midi avec notamment l'artiste Lina Filipovic qui a l'air très chouette. Et sinon, le 1er juin, moi je serai à Lyon pour voir la pionnière de la musique électronique, Suzanne Ciani, dans le cadre des Nuits Sonores au Théâtre des Célestins.
Le 5 juin, on enchaîne avec Camp Claude à l'Empérage. Donc c'est de la pop cold wave électro avec Diane Sanier à la tête du groupe. Et d'après Lila, Diane Sanier is cool.
Autre petite roco de Lila qui n'est pas là mais qui nous a quand même transmis ses petites recommandations. Il y a Lorraine qui passera le 14 juin toujours à l'Empérage avec Maïsé, une chanteuse rappeuse hybride. Et ce concert il se déroulera dans le cadre de l'événement Le Féminisme fait le printemps
Et le même jour à la MC2, il y aura des tables rondes animées par des personnalités médiatiques, parmi lesquelles Nesrine Slaoui, Charline Vermont, Victor Tuaillon, la créatrice du podcast Les couilles sur la table et Le cœur sur la table, entre autres, et d'autres invités.
Et le 21 juin, oui, bon, ok, c'est la fête de la musique, mais on repart aussi à Lyon, puisque Lucie Antonès, qui est une artiste associée aux Nuits de Fourvière cette année, à organiser, imaginer une performance et ce sera une création sonore pour 100 batteurs et batteuses. Et ce sera donc à la Halle Tony Garnier et c'est gratuit.
Et on enchaîne le 20 et le 22 juin avec la fête du solstice à la résidence artistique La Villa Glovette à Villard-de-Lans avec au programme des balades poétiques, des séances de ciné, des concerts, de la cuisine et encore plein d'autres surprises. Et on terminera avec notre événement queer grenoblois Paillettes Vénères le 7 et 8 juin.
Voilà, je crois qu'on a...
On arrive au bout de cette émission.
Ouais. Oh, déjà, c'est passé trop vite.
C'est trop court à chaque fois.
Merci Alice et Laurie de votre présence, de ces échanges. Bah, c'était
merci
trop cool.
Beaucoup pour l'invitation.
Ouais, merci cool. Beaucoup, c'était super.
Merci Alice et à la technique, à nouveau. Et puis... La petite surprise,
on va vous laisser avec une petite surprise en provenance directe de Grèce qui nous a été envoyée par Lila.
Salut la bouche, c'est Lila. Pas là pour cette émission, je suis en Grèce pour une résidence artistique et d'observation des étoiles appelée The League of Stars. Dans ce cadre-là, j'ai proposé avec Katia Bolkov une petite pratique, un workshop basé sur de l'écriture, du tarot et des expérimentations vocales. Alors ma carte postale, c'est notre production finale, quelques minutes d'opéra cosmique tombé des étoiles sur le ciel grec pour vos oreilles. C'est inouï.
No difference to me. I will find you if you hide in the mountains, beneath the water, in the reeds. No shield of smoke can cloud my gaze. No harebrained tricks or loopholes ensnare me. Know my name, but do not fear it. Put your heart in me.
Vous venez d'écouter une performance inédite de Sarah Shaw, Katia Borkov, moi-même, Stéphanie Venner, Celestino Marco Cavalli, Flavia Mar et Luz Peskovic. Merci à elle et à lui de vous être prêté au jeu, de travailler à partir de la voix, de l'expérimentation, de textes, de laisser la bouche s'exprimer comme elle veut, face à la mer, pendant quelques minutes d'extravaganza. Merci de votre écoute et à bientôt à Grenoble au 90.8. Bisous de Grèce.
Vous êtes dans la bouche sur Radio Campus au 90.8.